terminer cette fois notre série vers la maturité qui est basée sur l'épître de Jacques. Alors peut-être vous avez entendu un ou l'autre de ces messages, c'était un peu éparpillé sur le temps. Et je m'en excuse, mais des fois c'est comme ça, les agendas d'église, on fait ce qu'on peut. Et puis, je vais juste rappeler, essayer de ne pas être trop redondant, mais quand même vous redire un tout petit peu ce qu'on a essayé de soulever au travers de cette série de messages. Jacques nous encourage donc à la croissance, et puis tout comme Jacques, je crois pleinement à la puissance d'une communauté mature, une communauté qui est mature spirituellement, qui est mature dans ses relations. Et on a regardé un petit peu ces choses ensemble. Moi, je crois à des hommes et des femmes qui se laissent édifier par Christ dans l'épreuve. C'était la première chose qu'on avait vue ensemble. Une église qui n'est pas pleine de théoriciens, mais des gens qui mettent la parole en pratique. C'était aussi l'un des messages. Des personnes qui non seulement connaissent le plan de Dieu, c'est une chose de le connaître, mais qui le mettent en pratique, qui passent à l'action, qui vivent les réalités du royaume de Dieu. Je crois qu'il est possible aussi de vivre un changement de culture relationnelle. Pour ça, on a besoin d'être parfois, et bien souvent, guéri de nos insécurités, pour quitter le jugement, la critique, pour quitter la jalousie, dont il a été question dans ses messages, et pour entrer dans une culture qui honore l'autre, qui cherche à élever, qui donne de l'espace à l'autre pour que son potentiel soit libéré, pour faire fructifier les talents que chacun a reçus. Jean-Jacques nous a parlé des talents encore il y a 2 semaines. Je crois aussi à des hommes et des femmes consacrés, dans le sens d'une mise à part, qui ne se conforment pas au monde présent, mais qui ont une pensée renouvelée par l'Esprit Saint pour voir et agir différemment dans ce monde. Ça, c'est ce que Dieu aimerait faire avec nous. Ça, c'est vous, ces personnes, les amis, que Dieu transforme par son esprit, afin d'être cette église puissante. Quand je dis église, ça peut être communauté locale, mais ce n'est pas juste nous, d'accord? C'est l'église, c'est les chrétiens ensemble. Entrer dans cette réalité d'une église puissante. Puis c'est génial d'avoir un Dieu qui désire nous faire grandir, qui désire nous voir grandir comme cette image qui a été donnée là, qui désire nous... Qui se réjouit de nous amener plus loin. Pas une image d'un Dieu qui fait mal, qui punit quand on fait faux, mais un Dieu qui désire nous relever, nous élever, pour nous amener plus loin. Alors ce matin, je prie vraiment, en introduction de ce message, que vous puissiez ouvrir vos yeux, que vous puissiez saisir ce que Dieu veut faire dans vos vies, mais ce que Dieu veut faire avec nous, ici, avec toi. Et je vous encourage à prendre part à cette vision, d'entrer dans cette vision qui est là pour être cette église qui va faire une différence, une église d'impact dans ce coin de pays, une église qui vit le royaume de Dieu. Et évidemment, dans cette vision, il y a de la place pour tout le monde parce que chacun a un rôle, chacun est important, chacun fait partie de ce corps du Christ. Amen. Vous êtes là? Moi, je n'ai pas prévu une mise en jambe comme Fred. Ce sera peut-être nécessaire. Ça va? Bon. Super. Donc, tout au long de cette épître de Jacques, Jacques nous a touchés ou est venu nous chercher dans des domaines très relationnels dans lesquels on est appelé à grandir. Et puis, en fait, il termine son épître au chapitre 5 avec une clé puissante pour la guérison et la vie communautaire. Je vous donne juste ce verset. « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Donc, rapidement, on peut dire qu'ici, se demander pardon, parler ensemble, prier les uns pour les autres, avec cette conviction que la prière est une arme puissante, que la prière est efficace, c'est là-dessus que Jacques termine son épître. Mais juste avant de parler de la prière, il y a un verset qui m'a interpellé, c'est ce verset que je vais vous partager ce matin. Un verset, on ne sait pas vraiment exactement qu'est-ce qu'il fait là au milieu de ce chapitre 5, c'est le verset 12, que je vous invite à lire. Avant tout, mes frères, ne jurez ni mes frères et sœurs, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alors, je ne sais pas si vous êtes des gens qui jurez toujours le ciel et la terre, ou si vous êtes un petit peu du style, moi, je te jure sur la tête de ma mère. Non, c'est c'est plus tellement dans votre vocabulaire, j'imagine, vous avez passé l'étape, peut-être. Mais qu'est-ce que Jacques veut dire avec ça? Pourquoi ce verset est là? En tout cas, Jacques reprend des paroles que Jésus a prononcées sur le sermon sur la montagne. Et si Jésus les a prononcées aussi, je crois qu'il y a une importance et quelque chose pour nous ce matin. Donc sur le sermon sur la montagne, Jésus va dire ceci en Matthieu 5, 33, 34, puis j'ai sauté un petit bout, je vous donne le verset 37. « Vous avez aussi entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, « Ne rends pas ton serment, mais accomplis ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur. » Eh bien moi je vous dis de ne faire aucun serment. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Tout simplement, ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Alors, il faut comprendre cette parole pour que vous ne tombiez pas en jugement. Avec ce verset de Lévitique 19, 12, « Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car en faisant cela, vous profaneriez le nom de votre Dieu. » Donc, les Juifs avaient cette règle-là, il y avait cette loi-là. Et puis, ils avaient commencé un peu, il y avait une habitude chez les Juifs pour éviter en fait, de tomber dans ce verset, de prendre le ciel à témoin, de jurer en fait, avec autre chose. Ils ne voulaient pas mettre forcément Dieu dans l'affaire, mais ils juraient par des choses plus grandes que eux, le ciel, la terre par exemple. Et puis, Jésus va leur dire maintenant que leur oui et leur non est tout suffisant. Juste ton oui, juste ton non. Et peut-être que c'est vrai, nous on n'est peut-être pas dans une société ou dans une culture où on parle avec ce même vocabulaire-là, mais je crois qu'il y a une clé pour nous aussi. Je crois que pour nous aussi, Dieu veut nous dire, mais ton oui et ton non a une importance, ton oui et ton non a un impact. Pour bien comprendre cela, il faut comprendre aussi le sens, encore une fois, du sermon sur la montagne. On a souvent l'impression, dans le sermon sur la montagne, que Jésus va venir avec des choses tellement impossibles, tellement plus difficile. Vous voyez un petit peu de quoi je parle. Dans le sermon sur la montagne, par exemple, il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Ok, jusque-là, ça va, on n'est pas trop challengé. Mais moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Oh, alors là, on se dit, oh, mais c'est impossible, etc. Et puis, oh, mais Jésus, on croyait que c'était la grâce, hein. Et puis, il nous met un truc plus compliqué. Et puis, il faut vraiment comprendre ce mouvement du sermon sur la montagne où Jésus veut nous faire entrer par sa porte. Il est la porte. C'est lui qui est venu accomplir la loi. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Hein, puis, il l'accomplit comment? En donnant sa vie pour nous. Il l'accomplit en amenant la grâce et l'amour, le pardon. Donc ça, c'est la porte d'entrée dans ce sermon sur la montagne pour saisir la suite. C'est comme s'il nous amène avec lui dans cette réalité du royaume de Dieu. Ou à quelque part, ben oui, c'est plus exigeant, mais on n'est pas seul, c'est pas nous, c'est Dieu en nous, c'est Jésus, c'est par Jésus. Et Oswald Chambers le dit comme ça, j'aime bien, le sermon sur la montagne n'est pas une série de principes à suivre en dehors de notre identification avec Jésus-Christ. Le sermon sur la montagne est un énoncé de la vie que nous vivrons lorsque le Saint-Esprit agira librement en nous. Donc le défi, c'est de laisser le Saint-Esprit agir librement en nous, on est d'accord. Donc, ces paroles ici de Jésus nous amènent à quitter une manière de vivre, une manière de penser pour entrer dans une culture relationnelle nouvelle, transformée par son amour et sa grâce. Et c'est justement cette maturité spirituelle, relationnelle, à laquelle il nous appelle et que j'essaie de vous parler depuis quelques dimanches, pour que ça devienne vrai, que ça devienne véritable ici. C'est une nouvelle dimension qui reflète les principes du royaume de Dieu. Alors dans ce sens, Jésus va dire, il n'y a même plus besoin de faire de serment. Passer cette porte, c'est entrer dans une réalité où mon oui m'engage, où mon non me positionne. Mon oui et mon non est suffisant, ma parole a une autorité. Ma bouche parle avec conviction, bien sûr dans la liberté. Donc il y a un changement quand on passe cette porte puis qu'on rentre, qu'on a accès à ce royaume de Dieu. Je l'ai mis comme ça, Jésus par ses mots nous appelle à prendre conscience de la puissance de nos paroles sanctifiées, renouvelées et inspirées de l'Esprit et à être des hommes et des femmes de parole. Amen, vous êtes ok avec ça? Donc là où un serment était nécessaire, un oui ou un non d'un enfant de Dieu devrait suffire. Une parole d'autorité qui va trancher et sur laquelle on va pouvoir compter. Alors l'enjeu dans ce oui et de ce non, ce n'est pas juste de donner notre propre avis. L'enjeu, c'est d'amener le oui du ciel sur la terre, dans nos relations, dans notre business, dans la manière d'éduquer nos enfants, face à l'ennemi. C'est d'avoir un oui et un non qui est inspiré, qui est conduit par l'esprit. Et je pense que vous n'avez pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir que dire oui ou dire non, ce n'est pas facile. Il n'y a pas que moi, hein ? C'est pas facile de dire oui. Ouais, voilà, c'est bon, ça, il y a quelqu'un qui a osé dire oui. Merci, merci Philippe. Moi, je me souviens de ces étapes de vie où j'ai commencé à réaliser que j'étais appelé à prendre position. J'étais appelé à dire oui ou dire non. Il y a un moment dans ta vie où tu te rallies toujours à la majorité, où tu dis oui facilement, pour plein de raisons qu'on évoquera, hein. Mais voilà, puis d'un coup je dis, ah mais en fait, je peux me distancer. J'ai le droit de me différencier en disant un oui qui est un oui. Puis je ne vais pas juste dire oui pour faire plaisir, ou bien oui parce que c'est ce que mes parents pensent. Il y a un moment donné dans nos vies où on réalise qu'on peut se distancer. Alors bien sûr, en Suisse, il y a les votations, hein. C'est des jours de votation aujourd'hui, si jamais. Mon enveloppe est restée fermée. C'est un autre sujet. Votation. À 18 ans, c'est tout un apprentissage. On a le droit de voter. Waouh, super. Mais qu'est-ce qu'on va voter ? Qu'est-ce qu'on va voter ? Bon, ben, papa, toi, tu penses quoi de ce sujet ? Et puis, on vote un petit peu comme nos parents, ou on vote un petit peu ce qu'on entend. Mais en fait, d'avoir le droit de dire oui ou de dire non, ça nous responsabilise. C'est-à-dire que je dois m'informer. Je dois savoir pourquoi je vais donner ma voix ou à qui je vais donner ma voix. Et dans tout ça, on a besoin de grandir. Dire oui quand c'est oui, non quand c'est non, ça demande de la maturité. Alors on va regarder un petit peu en quoi ce matin. Premier point, une parole qui nous engage. Donc premièrement, notre oui ou notre non nous engage. Il y a un engagement derrière ça. Et puis nous, on n'aime pas trop l'engagement, généralement, hein, parce que c'est assez sérieux quand même. Hein. Eh bien oui. Et puis en plus, dans notre culture vaudoise, alors ça, c'est très fort, hein, c'est le ni pour ni contre, bien au contraire. Hein. Il y a des vrais vaudois ici ? Bon, moi, on a des fois de la peine à avoir un engagement tranché. D'ailleurs, je me souviens d'un petit épisode dans ma vie d'ado, où j'avais des lapins à la maison, puis j'allais chercher chez le paysan du coin une botte de foin, une botte de paille pour mes lapins. Et puis, ce paysan du village, ben, on ne savait jamais ce qu'il pensait. Je ne savais vraiment pas trop ce qu'il pensait. Puis, ça me gênait beaucoup, en fait, d'aller lui demander ça, parce que je ne savais pas si ça lui faisait plaisir, s'il était content, s'il était d'accord, pas d'accord. Je sais pas, voilà, je dis, mais est-ce que ça le dérange ? Et puis une fois, je lui ai dit, est-ce que vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas, etc. Puis, il m'a répondu un truc comme ça. Ouais, ben, faut bien que ça mange, hein, c'est lapin. Bon. Alors moi, je renchéris et puis je lui dis, bon, mais moi, je vous paye, je vous donne quand même quelque chose pour cette botte, il n'y a pas de problème. Puis il me fait, si tu veux peut-être, ouais. Pff. Éventuellement, on s'en fout, hein. Voilà, donc je lui ai donné 100 sous, mais c'est sûr que s'il m'avait dit « oui, ça me fait plaisir », mais « oui, ça coûte quelque chose », ou « il avait été clair, ça aurait été bien plus simple, hein, j'aurais gagné du temps, c'est sûr ». Mais non, c'était « il est ni pour ni contre, bien au contraire, pas facile ». Donc on a souvent de la peine à affirmer notre point de vue, à donner une parole claire, un avis tranché, qui engage. Puis je crois que la maturité, c'est justement d'oser faire des choix de s'engager et de se positionner. Dieu désire que notre oui soit oui ou que notre non soit non. Hein, sans engagement, sans faire des choix, on n'avance pas. Et d'ailleurs, l'alliance elle-même, elle repose sur un engagement de Dieu vis-à-vis de nous, mais aussi une réponse de nous, il attend un oui ou un non, qui nous engage. Puis Jésus, il a appelé des disciples à sa suite, mais il voulait un oui ou un non. Il ne voulait pas des peut-être, évidemment, peut-être, bon, je ne sais pas trop, ni pour ni contre, bien au contraire. Et puis un bon exemple, c'est le mariage. On aura une bonne annonce tout à l'heure. Imaginez quelqu'un dans le mariage qui dit, hein, au moment de dire, est-ce que vous voulez prendre madame pour épouse? Ouais, pourquoi pas? À la limite, hein? Elle est quand même jolie, hein? Ouais. Bon, je suis plutôt pour, quoi. Hein? Non, c'est pas possible, quoi. On doit se positionner, hein, lors d'un mariage, on s'engage. Hein, moi, j'ai dit à Damaris, mais voilà, je l'aime, j'en ai aucune autre, c'est comme ça, je me suis positionné, c'est un oui, c'est sûr. Amen. Oh. Voilà. Au cas où quelqu'un avait un doute, c'est elle que je vais aimer jusqu'au bout. Non, mais voilà, lors d'un mariage, lors de baptême, on a besoin d'un oui retentissant. Moi, j'aime bien que les gens s'engagent. D'ailleurs, quand je célèbre un mariage ou quand je baptise quelqu'un, je veux entendre ce oui, quoi. Il faut qu'ils le disent. C'est tellement important. Et je crois qu'aujourd'hui, le mariage, c'est un bon exemple parce que si beaucoup de personnes ne se marient plus, c'est justement parce que ce oui engage et puis fait peur. Ce oui, il a une conséquence. Mais ce n'est pas seulement dans les grands choix de la vie. C'est aussi dans le quotidien, dans notre vie de famille, dans notre vie professionnelle ou relationnelle, que nous avons besoin d'être clairs et de donner des oui qui comptent ou des non qui sont radicaux. Nos enfants attendent des réponses claires de leurs parents, de nos parents. Moi, je l'ai bien réalisé ces derniers temps. Quand ils me posent une question du style, une question très compliquée, « Est-ce qu'on pourra avoir une glace aujourd'hui, papa ?» Hein, c'est la saison. Ben, c'est vrai que sur le moment, moi, je ne sais pas trop. Et puis, souvent, je laisse un peu la porte ouverte. Et puis, je dis, on verra. Ça veut dire quoi, on verra? C'est le pire pour un enfant. Et moi, ça m'arrange, parce que je laisse la porte ouverte. On n'a rien promis. Hein, donc, je peux encore me rétracter et dire non. Et puis, ça dépend un peu de ma journée, comment ça va se passer. Mais eux, ils ont besoin qu'on se positionne. Parce que si on ne se positionne pas, ils vont choisir la réponse pour nous. Hein, ça, vous avez remarqué, les parents. Hein, le « on verra » devient un « oui » à coup sûr. Voilà. Ou bien alors, et puis ça c'est le plus pénible, il faut avouer, c'est qu'ils vont revenir toutes les deux minutes nous reposer la question. Alors la glace, papa, c'est quand? Hein? Voilà. Donc, sans réponse claire, avec des enfants, ben, c'est la cata. Ça laisse l'enfant dans un flou, puis il ne sait pas sur quoi il peut s'appuyer. Donc il a besoin d'un oui ou d'un non, ça c'est la vie quotidienne. Ton oui, ton non, il compte. Puis dans la vie professionnelle, bah, tu ne peux pas répondre à ton patron qui te demande quelque chose. Ouais, on verra. On verra hein, si j'arrive aujourd'hui, si j'ai le temps. Ben non, c'est oui ou c'est non. Au pire, tu as peut-être la liberté de dire non et puis on peut trouver une solution. Mais il faut une réponse claire. Et puis en tant que patron aussi, hein, si on attend du patron une direction, etc., mais lui dit, oh, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire, je ne sais pas trop où on va. C'est pas possible, on a besoin de réponses précises. Je me souviens, lorsqu'on était en Inde, j'ai découvert un truc excellent chez nos amis indiens, ça nous arrangerait bien peut-être en tant que vaudois, mais ils font un signe de tête qui est très difficile à interpréter, je ne sais pas si vous avez côtoyé des Indiens. Ils te répondent avec un signe de tête comme ça. Alors moi je le fais sûrement très mal, hein, mais comme ça, puis voilà. Donc tu sais jamais quoi, tu dis, 9h c'est bien comme heure, on se donne rendez-vous à 9h pour demain matin. Ok. Alors il semblerait, hein, la traduction ça veut dire ok quoi, mais c'est vrai que chaque fois que tu vois le gars qui fait comme ça, t'es là, j'ai comme un doute quoi. Voilà, donc imaginez vous arrivez vers votre chef, vous voulez poser vos vacances, vous avez besoin d'une réponse, elle dit c'est bon au mois de juillet là hein. Venez au camp d'été, si jamais. Bon. Donc, dans toutes ces situations, dire oui, eh ben, ça nous positionne, ça nous engage. Mais c'est important. Il y a peut-être des fois un coup à ça, à dire un oui ou un non précis. Parce que ça me démarque. Je prends position. Et c'est là que la maturité intervient. La maturité, ce n'est pas juste le oui ou le non. Mais c'est la sécurité relationnelle avec Christ et avec ceux qui t'entourent. La liberté d'être toi-même. La conduite de l'esprit dans ta vie qui va te permettre de te positionner. Hein, ce n'est pas juste dire oui ou non. C'est de nouveau tout ce qui est autour, tout ton, l'aspect de l'identité. Tout ça, c'est nécessaire pour pouvoir donner un oui ou un non qui est mature. Donc on doit s'appuyer sur l'Esprit Saint qui nous guide dans nos choix. sur cette réalité que nous sommes aimés de Dieu. Même si ma décision ne va peut-être pas plaire à l'un ou à l'autre. Aussi cette réalité que j'ai le droit à l'erreur. Je peux dire un oui, je peux dire un non, mais peut-être que je me trompe. Ça peut arriver. Je dois accepter ça. Lorsque ma décision est difficile à prendre ou elle a des conséquences importantes, ben aussi avec cette sécurité que je trouverai dans la communauté, puis là c'est mon rêve, puis c'est la vision, hein, des personnes qui ne vont pas juger mes choix, mais des personnes qui vont m'accueillir avec bienveillance, qui vont m'encourager, qui vont me soutenir, puis qui vont chercher à me faire grandir. Tout ça, c'est la maturité qui nous permet de poser des oui et des non. Peut-être ce matin, il y a des gens qui doivent donner un oui ou un non, que tu dois affirmer avec courage. C'est peut-être avec Jésus ce matin que tu dois donner un oui. Tu n'as jamais vraiment répondu si tu voulais le suivre, si tu voulais donner totalement ta vie. Peut-être tu vis un tiraillement intérieur. Ce sera l'occasion ce matin de dire un oui. Peut-être c'est un oui à un appel spécifique, tu n'as jamais donné. Tu sais qu'il y a quelque chose de latent qui est là, mais tu n'as jamais osé donner ce oui qui engage. C'est peut-être un renoncement clair. Peut-être c'est un non à une proposition professionnelle. Proposition alléchante, mais tu sais que c'est en désaccord avec tes convictions. Ou bien tu sais que ça mettrait ta vie de famille en péril. Peut-être tu dois donner un non. C'est peut-être un non à une mauvaise habitude que jusque-là tu as toujours tolérée dans ta vie. Ni oui ni non. Ça t'arrange, la porte est ouverte. Un oui ou un non qui engage. La maturité, c'est d'oser affirmer. C'est oui, sinon, qui engage avec cette assurance et cette sécurité relationnelle offerte par Christ. Amen, vous êtes encore là ? Alléluia. Deuxième point. Dire oui quand c'est oui et non quand c'est non, ça demande d'être vrai. Ça demande d'être vrai. Et puis, personnellement, pendant longtemps, moi, je disais oui, oui, mais souvent, je pensais non. On pourrait parler de diplomatie, politiquement correct. Non, mais ça peut être dans le service, hein, bien sûr. On te demande quelque chose et puis tu n'oses pas dire non. Donc tu dis oui, mais en fait, tu n'es pas dedans. Donc ce n'est pas un oui qui t'engage. C'est de nouveau un truc où tu es entre deux et puis ça ne va pas. Mais ça peut être aussi des choses toutes simples. Hein, je reprends, je suis bien dans les enfants là. Le dessin de ton enfant de 4 ans qui vient vers toi. Hein, puis, il est beau, papa, mon dessin. Puis ben, on dit oui forcément, hein, on dit oui. Puis on sait bien la réalité du dessin de notre enfant, mais on ne veut pas le blesser, on veut l'encourager, on veut l'élever, etc. Mais je crois qu'en fait, ce réflexe-là, souvent, il reste un peu dans nos relations. Hein, on a toujours l'impression que celui qui vient, il a son petit dessin, puis on n'ose pas des fois être vrai. On a peur de blesser l'autre, on préfère dire oui donc au lieu de non. Parce que, bien sûr, alors dire oui, on va le voir, être vrai, ça demande de la maturité, mais recevoir aussi, ça demande de la maturité. Hein, pouvoir recevoir ce que l'autre nous dit. On sait bien que les gens ont tendance à préférer un mensonge qui rassure plutôt qu'une vérité qui dérange. Hein, vous voyez là la caisse du cinéma, deux films, une vérité qui dérange, un mensonge qui rassure. Il n'y a personne là. Hein. Tout le monde fait la queue pour le film. Un mensonge qui rassure. Mais vous avez certainement tous vécu ces situations où vous n'êtes pas pleinement d'accord avec l'autre, vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec son choix, puis la personne vous demande « Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est bien ?» Puis là, bah, tu réponds oui. Tu réponds oui, oui. Là, messieurs, je ne parle pas de la couleur des chaussures de votre femme avant de partir ce matin à l'église. Hein ? Ça, c'est oui, oui, parce qu'on veut aller vite. Hein ? C'est le temps de partir. Voilà. Je ne parle pas de ces oui-là, d'accord ? Mais la maturité, je vous fais rire hein, ce matin, je sais pas, c'est l'été. La maturité, c'est de pouvoir répondre dans la vérité, avec ce désir de faire grandir l'autre, dans l'encouragement, et non pas en donnant un non qui va casser, qui va rabaisser ou qui juge. Puis c'est aussi accepter qu'il est possible d'être en désaccord. Vous savez qu'il est possible d'être en désaccord. Ça peut arriver. Hein. Puis c'est pas parce qu'on est en désaccord qu'on ne s'aime plus, ou bien que la valeur de l'autre change. À nos yeux, non. Et puis même si c'était le cas, bah de nouveau, ma sécurité, elle est dans l'amour de Christ, d'abord. Mais dans ce contexte relationnel transformé, c'est possible. Donc je crois qu'on a besoin de grandir dans l'autorité que Dieu nous donne au travers de notre oui ou de notre non. Dire la vérité, de nouveau, ce n'est pas juste dire ce que je pense, mais c'est donner ce non ou ce oui qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Vous avez une responsabilité en donnant un oui ou un non. Et plus je suis vrai, plus je grandis et gagne en autorité. Et je peux vous dire que vous soyez vrai avec des chrétiens ou des non-chrétiens, on vous remerciera toujours d'avoir osé dire la vérité. On va vous remercier pour ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est une valeur qui n'existe plus. Il n'y a plus de vrai contact, il n'y a plus de face-à-face où on peut dire les choses. Bien sûr, de nouveau, dans l'amour, etc. Hein, j'insiste, c'est une culture. C'est important d'être vraiment basé sur cette culture relationnelle qui va élever, qui va poser les bonnes questions, qui va faire grandir. On n'est pas là pour balancer des vérités à la figure des autres, comme ça. Hein. Il y en a toujours ceux qui se justifient en disant qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Vous avez déjà entendu ça, hein. Ah, ben ma foi, je lui ai dit sa vérité, hein, il n'y a que la vérité qui blesse. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire non plus ce matin. Jésus est la vérité. Jésus parle avec vérité. Jésus n'a blessé personne. Parce que la vérité, elle libère. La vérité, elle guérit. La vérité, elle fait grandir. Et Paul dira, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Alors la maturité, c'est de pouvoir répondre dans la vérité avec ce désir de faire grandir l'autre, et c'est donner ce oui ou ce non qui vient d'en haut. Cherchez à avoir un oui et un non qui exprime la vérité de Dieu, une vérité qui vient de Dieu, une vérité qui amène la lumière là où Dieu vous a placé. Troisième point, une parole qui nous rend vulnérables. Pour dire oui ou non, ou dire oui ou non, ça demande d'accepter d'être vulnérable. Parce que lorsque je dis oui ou non, je m'engage, on l'a vu, je prends une position, je dis la vérité, mais au milieu de tout ça, je fais quoi? Je me dévoile. Je me rends vulnérable. Et puis, on n'aime pas se dévoiler. On n'aime pas prendre le risque d'affirmer notre pensée, de prendre la responsabilité de notre oui ou de notre non. Parce que justement, c'est souvent lié à ces peurs, à ces insécurités qui sont au fond de nous. Comme je l'ai dit pour moi, hein, j'avais des fois peur de dire la vérité, de dire un oui, parce que j'avais peur de ne plus être aimé, par exemple. La peur de ne plus être aimé. Quand tu t'affirmes, quand tu dis un oui ou un non, ben oui, ça va peut-être déplaire. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tu es vulnérable. Peut-être la peur d'être critiqué. La peur de se tromper, j'en ai aussi dit deux mots. La peur de ne pas tenir parole. Hein, quand on prend un oui ou un non, eh ben, maintenant, tout le monde le sait que j'ai dit oui. Tout le monde le sait que j'ai dit oui à Damaris. Non, je dois tenir ma parole. Si je ne la tiens pas, vous serez là pour me le rappeler. Hein, heureusement. Mais on peut parler d'autre chose, d'accord? Donc, je suis dévoilé. J'ai donné ma position, j'ai pris une décision. Puis maintenant, je suis face à mes peurs et un peu vulnérable de ce que les autres autour vont dire ou vont penser. Donc, on peut m'atteindre très, très facilement. Ma position, elle est connue. Alors, on n'aime pas être dans cette position de vulnérabilité. Mais oser prendre ce risque, oser se dévoiler et prendre la responsabilité, c'est aussi cette marque de maturité. Alors, ça veut dire que face à nos peurs, ou face à mes peurs, j'ai cheminé. Je ne suis plus conduit par un besoin de plaire aux autres ou d'être aimé. Je n'ai plus peur d'un désaccord ou de la critique. Et puis le cas échéant, je peux assumer le fait d'avoir fait une erreur. Donc être vulnérable, c'est une bonne chose si on a la maturité derrière pour accepter d'être vulnérable. Vous comprenez un petit peu? Je ne sais pas si c'était assez clair. Donc à nouveau, c'est vraiment cette sécurité en Christ qui va faire la différence. Et puis cette sécurité aussi qu'on vit dans l'Église, dans nos relations, dans les relations restaurées, empreintes du royaume de Dieu. Et si vous êtes dans une position de leadership ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à laisser le Saint-Esprit travailler ça dans votre vie. Parce qu'on ne peut pas être un leader et vivre dans l'insécurité, dans la peur, dans la peur de ce que les gens vont penser, ou dans le besoin excessif d'être apprécié. Puis j'ose le dire parce que je l'ai vécu. Je peux vous le dire, mais ce n'est pas possible. C'est nécessaire de pouvoir poser un oui ou un non, sans avoir peur d'être vulnérable, sans la crainte de perdre quelque chose, etc. Et je crois qu'on attend d'un leader une prise de position et des décisions claires. Hein, si le cadre n'est pas posé, si je n'ose pas dire oui, si je n'ose pas dire non par peur de déplaire, personne ne va pouvoir se situer. Personne ne va pouvoir entrer dans la vision que tu amènes. Un leader mature ne craint pas cette position de vulnérabilité. Puis elle est un peu constante dans une position de leadership. On prend notre sécurité en Christ pour apporter la vision de Dieu et faire grandir ceux qui nous ont été confiés. Peu importe que ce soit dans un contexte chrétien ou pas, vous devez vraiment régler ces histoires d'insécurité et de peur pour être ce leader que Dieu veut que vous soyez. Amen. Un dernier point rapide. C'était le point 4. C'est le résumé. La maturité, c'est oser donc se dévoiler, libérer de toute crainte. Puis mon dernier point rapide, une parole qui donne une direction. Je voulais encore juste relever ça. Parce que dire oui ou dire non, ça demande de savoir où on va et en quoi nous croyons. Et je me demande si des fois on sait ça. Je le réalise dans bien des domaines. On n'ose pas se dévoiler, on n'ose pas prendre une prise de décision parce qu'en fait, on ne sait pas où on va. On ne sait pas exactement ce qu'on croit. Du coup, je ne m'engage pas, je ne veux pas engager ma parole, je ne veux pas donner un oui ou un non si je ne sais pas où je vais, si je ne sais pas en ce que je crois. Si je dis oui pour revenir à la glace de mes enfants, les amis, elle vous fait envie, hein, il fait chaud ce matin. Si je dis oui à la glace de mes enfants, ça veut dire que je sais que je vais devoir trouver une glace dans la journée. D'accord ? Donc, je dois avoir une vision. Ok, je dois avoir une vision de la glace, savoir où je vais la trouver. S'il n'est pas dans le congé, il va falloir l'acheter, etc., etc. Je dois savoir où je vais. Je ne peux pas dire oui, puis qu'en fait, ce n'est pas possible. Puis si je dis non, j'ai la liberté de dire non. Je le perds tout de même. Non. Je peux dire non. Mais pourquoi je vais dire non ? Je dois savoir pourquoi. Je ne peux pas juste dire non. Ça, c'est juste de l'autoritarisme. Oui, non. Non, il y a quand même une raison. Pourquoi je vais dire non ? Puis cette raison, elle nous est propre. Chacun peut-être a une raison différente. Mon oui comme mon non doit m'emmener à quelque part ou m'emmène à quelque part. Donc je dois savoir où je vais. Et je vous pose la question, mais le savez-vous ? Le savez-vous lorsque vous dites oui ou non ? Le savez-vous dans vos choix de vie ? Vous dites oui à quelque chose, mais savez-vous pourquoi ? Vous savez-vous où vous allez ? Avez-vous une idée de la direction que vous allez donner à votre vie ? Parce que vous pouvez avoir 10 000 offres d'emploi et vous dire oui partout. C'est quoi ? C'est quoi la direction ? Parfois, mieux vaut dire oui. Hein ? Faites pas trop les difficiles, le marché du travail est serré quand même. Hein ? Mais si vous avez une direction de Dieu pour votre vie, alors votre oui ou votre non, vous savez pourquoi ? Vous savez où vous allez ? Ça fait une différence. Peut-être que c'est des questions qu'il faut se poser à chaque nouvelle saison de vie. Où c'est que je vais ? À quoi je dis oui, à quoi je dis non ? C'est quoi ma saison de vie aujourd'hui ? Hein, parce qu'il y a plein de questions qu'on se pose à 15 ans, à 20 ans, mais à 60, on s'en pose d'autres. À 40 aussi, il y a pas mal de quarantenaires ici. Et puis c'est valable pour l'éducation de nos enfants aussi, ou dans nos propres vies, dans notre vie professionnelle. Est-ce que si je sais où je vais pouvoir me positionner ? Je vais pouvoir dire oui ou je vais pouvoir dire non ? Et savoir en quoi je crois, c'est aussi très important. Si par exemple, je dis non à l'homéopathie, ok, mais est-ce que je sais pourquoi ? Je dois savoir pourquoi. Si je dis non à mon fils pour faire du taekwondo, je dois savoir pourquoi. Des fois, en tant que chrétien, on ne réfléchit pas trop, on a juste un avis comme ça, un petit peu pris d'un côté ou d'un autre, puis on ne sait pas. Alors des fois, même on se laisse berner. Parce qu'on ouais, on n'est pas très clair, c'est ni oui ni non, quoi. Donc, ton fils, il voudrait venir à l'entraînement faire du taekwondo avec le mien ? Je sais que dans ma tête, c'est peut-être pas super, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Donc, qu'est-ce que je dis ? Je dis oui quand même, à faire plaisir à tout le monde, quoi, à la famille, etc. Mais si je sais en quoi je crois, si je sais mes positions sont claires, à vous de savoir, hein, taekwondo, on en parlera une autre fois, mais si, c'est un exemple. Mais voilà, si vous savez, Eh bien, vous dites oui ou vous dites non, et puis c'est clair. Et c'est clair pour tout le monde. Donc c'est important de savoir en quoi on croit pour prendre des décisions éclairées, fondées, pesées et durables. Je vais terminer là-dessus. La maturité, c'est de prendre des décisions qui conduisent à quelque part, qui poursuivent une vision et des positions fondées solidement. Alors ce matin, je vais simplement conclure en rappelant que Jacques, comme Jésus avant lui, nous encourage à avoir une seule parole. Un oui qui soit un oui. Un non qui soit un non. Amen. Que votre parole ne soit pas uniquement empreinte de vos propres pensées, mais que ce soit un oui ou un non inspiré, qui découle sur un engagement fondé, sur une parole de vérité qui fait grandir, et sur des choix de vie qui mènent à Christ. Alors ce matin, je vous invite simplement à la prière pour qu'on soit reconnus comme des chrétiens de parole, pour des chrétiens qui disent un oui et qui un non et qui s'engagent, qui ont des raisons, qui savent pourquoi ils font les choses, pour des chrétiens qui disent la vérité, vrai dans les relations, dans l'amour, dans le désir d'élever l'autre, mais vrai. Je vous invite simplement à incliner vos têtes. Et Fred, après tu peux revenir aussi.